Chers amis, chers frères et sœurs, nous ouvrons dans la droite ligne de ce cantique la Bible dans le premier livre des Rois au chapitre 19 pour en lire les 19 premiers versets. Un roi 19. Verset 1er au début du verset 19. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi !» Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, le son d'une douceur tranquille. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazael pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7 000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là et il trouva Élisée. Nous avons considéré durant ces trois premières études sur 1 roi 19, nous avons considéré essentiellement la première des grandes causes de la dépression, du profond découragement du prophète Élie. Nous y avons reconnu, tout d'abord, de la manière, je dirais, la plus banale qui soit, les circonstances difficiles de la vie. Plus particulièrement, la durée et l'accumulation des difficultés à certains moments de notre vie. Mais nous nous sommes empressés d'ajouter que, en réalité, les circonstances difficiles étaient la manière que notre cœur tortueux avait de justifier nos découragements. Les circonstances difficiles servant en quelque sorte de bouc émissaire en vue de cette justification. Mais qu'il fallait aller plus loin et voir, en réalité, dans un changement de direction de notre regard, la cause profonde de nos découragements, un décrochage du regard qui passe du Seigneur aux circonstances qui nous obnubilent, qui nous oppressent, et des circonstances à notre moi qui nous conduit dans l'apitoiement sur nous-mêmes. Et après avoir quelque peu développé ces mécanismes, dans notre explication, nous avons fortement suggéré, à la lumière des Écritures, le remède de Dieu à cette situation, dans trois expressions clés que nous développions hier soir. Premièrement, changer la direction de notre regard. Deuxièmement, changer la qualité de notre regard. Troisièmement, apprendre la discipline de nos pensées. Tel est, très brièvement résumé, le contenu donc des grandes lignes de nos trois premières soirées. Nous aurions pu considérer cinq autres causes. J'en ai évoqué au passage, en tout cas au moins deux d'entre elles. Mais nous allons, si vous voulez bien, maintenant simplement vers la dernière des sept causes que personnellement j'ai détectées dans ce chapitre d'un roi 19, parce qu'elle est tout aussi importante, intimement liée, comme nous allons le voir, à la première cause, ce décrochage du regard. Et cette septième cause a l'avantage de contenir, en tout cas dans notre étude ce matin, le remède de Dieu. Et nous sommes heureux de terminer par cette dimension. Et j'aimerais simplement évoquer le grand problème du prophète Élie qui nous guette tous, dans un sens ou dans un autre. Celui d'une vision déséquilibrée de Dieu. Vision déséquilibrée de Dieu, d'autant plus déséquilibrée aujourd'hui que nous vivons dans un temps d'humanisme où le regard de l'homme est fixé sur l'homme. Et où dans l'Église de Jésus-Christ, trop souvent, notre regard est fixé sur nous-mêmes et tout nous y conduit, y compris une multitude, une foule incroyable de livres qui sortent en grand nombre, pour nous aider à fixer encore un peu plus les regards sur nous-mêmes. Alors, j'aimerais simplement rappeler ces deux courts extraits de courrier adressé par cet homme de Dieu, jeune homme encore, Spurgeon, notamment à sa maman pour un des extraits de lettres que nous lisions tout à fait en fin d'étude hier soir, puisque cela constitue aussi une introduction à notre réflexion. Tout d'abord, peu de temps après sa conversion à Jésus-Christ, Spurgeon est né en 1834, il s'est donné à Jésus-Christ de manière absolument radicale en décembre 1849, donc il avait 15 ans, et c'est après l'été 1850, donc il avait pratiquement 16 ans, qu'il écrivit dans une lettre à sa mère, passant apparemment par des moments de dépression, ces quelques lignes. Les moments de ravissement, les heures saintes de communion, les jours bénis par le soleil de sa présence sont des gages de gloire sûre, certaine, infaillible. Souviens-toi des œuvres de la Providence pendant cette année. Avec quelle clarté tu as vu sa main dans des choses que les autres appellent chance. Dieu qui a mis le monde en marche a utilisé les ressources de son vaste cœur et de sa pensée pour toi. Lui qui compte les cheveux de notre tête et nous protège comme la prunelle de ses yeux ne t'a pas oublié, mais il t'aime toujours d'un amour éternel. Les montagnes n'ont pas encore été ébranlées, les collines n'ont toujours pas chancelé. Jusqu'à ce que cela arrive, nous pouvons être sûrs de la sécurité de son peuple. Et environ 5 ans plus tard, au matin du 7 janvier 1855, Spurgeon, alors âgé donc de 20 ans, d'écrire ces lignes. Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors plongez-vous en Dieu comme en une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité. Vous en ressortirez reposé, rafraîchi, plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. Venons-en à notre ami Élie, cet homme soumis aux mêmes passions que nous, ce pauvre type comme nous, lisions-nous dans une version le premier soir. Élie, nous l'avons dit, une forte personnalité, un homme très entier, un défenseur passionné de la justice et de la vérité de Dieu. Ceci en des temps très difficiles. Homme sans compromis, un de ceux que l'on appelle les fidèles dans l'Israël impie. Un homme sensible, très concerné par l'état du peuple d'Israël. Un héros de la seigneurie de Dieu. Son nom lui-même l'indique. Mon Dieu est l'Éternel. Sa devise, l'Éternel est vivant. Chapitre 17, verset 1er, chapitre 18, verset 15. Cette expression forte qui figure quelque 43 fois dans l'Ancien Testament. Je suis vivant, dit le Seigneur, 33 fois dans l'Ancien Testament. Le Dieu vivant qui coupe les eaux du Jourdain. Le Dieu vivant qui protège Daniel dans la fosse. Le Dieu vivant qui triomphe de Goliath. Le Dieu vivant qui anéantit l'armée du roi d'Assyrie faisant le siège de Jérusalem. Et nous pourrions ainsi continuer. C'est-à-dire un Dieu fort. un Dieu puissant, un Dieu impressionnant, un Dieu agissant, intervenant dans l'histoire des hommes, un Dieu pouvant être terrifiant même dans ses interventions. Le Dieu du mont Sinaï, celui qui donne sa loi et qui parle dans le feu et dans la tempête. Exode 20, versets 18 à 21, « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes et de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait, se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Deutéronome 5, versets 23-27. Lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous avez dit, « Voici, l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. » Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Approche-toi, écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, dira le rédacteur inspiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 31. Hébreux 12, 29 ajoutera, « Notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Et je me souviens avec émotion de cette nuit de février 1985, où, avec quelques amis, Alain Choiquier, d'autres, nous grimpions sur les pentes du Sinaï et où la tempête s'est déchaînée, où la neige s'est mise à tomber, l'orage a éclaté, les roulements de tonnerre allant d'un flanc à l'autre de la montagne nous ont plongé dans une situation quelque peu tendue, mais nous ont permis en quelque sorte, et c'était une grâce de Dieu, de mieux comprendre quelques-uns des sentiments qui ont pu étreindre le cœur du peuple de Dieu rassemblé au pied de cette montagne fumante. Élie, héros de la seigneurie de Dieu, héros de la sainteté de Dieu, Élie, l'homme qui fait descendre le feu de Dieu du haut du ciel. Nous l'avons appelé le prophète de feu, puisque dans 4 des 6 chapitres qui racontent quelques extraits de son histoire, il est question de feu. L'homme austère, au message sévère, chargé de missions redoutables, dénonçant clairement le péché, brandissant la loi de Dieu. Homme très affecté par les dépravations morales d'Israël, nageant à contre-courant, jaloux de l'honneur et de la sainteté de Dieu, un homme entier pour Dieu. Il n'est donc pas étonnant que dans 1 Roi 19, nous constations que le champion battu prend le chemin du Sinaï, la montagne de la loi de Dieu. comme s'il était attiré par son affinité avec Dieu dans le domaine de sa sainteté, de sa justice, de sa sévérité, de son obéissance à sa loi, il ne pouvait qu'être attiré par le Sinaï. Et pourtant, il ne le sait pas encore, c'est sur les flancs du Sinaï précisément qu'il va avoir la grande surprise de sa vie et de son ministère. Quelle est l'attitude de Dieu vis-à-vis d'Élie ? Eh bien, premièrement, Dieu n'abandonne pas son enfant. Alors qu'Élie est submergé par le syndrome de l'échec, échec en réalité apparent. Et si nous avions eu peut-être deux soirées de plus, je ne dis pas pour que nous les ayons, mais simplement pour le préciser, nous aurions consacré sans doute deux soirées au syndrome de l'échec dans nos vies. Parce que il y a dans chacune de nos vies, dans quelque endroit secret de notre cœur et de notre mémoire, des douleurs qui parfois se réveillent au souvenir de certains échecs. Syndrome de l'échec. Je ne suis pas meilleur que... Ce qui prouve que pendant un certain temps, Élie a pensé qu'il était meilleur. Ce qui rejoint nos études des derniers soirs. Il a pensé qu'il réussirait là où les autres avaient échoué. Eh bien, malgré cela, et alors qu'Élie pourrait douter de la fidélité de Dieu, alors qu'Élie pourrait dire « Mais Dieu s'est détourné de moi ». Dieu a dû prendre ses distances. Comment Dieu ne me condamnerait-il pas alors que je fais faillite dans ma vocation ? Eh bien, Dieu ne l'abandonne pas. C'est l'expérience que fera le champion de la louange dans l'Ancienne Alliance. Ce chantre, Asaph, merveilleux conducteur de chorale, chargé d'animer la louange, et qui pendant toute une partie de son ministère a animé la louange alors qu'il était dépressif. Comme quoi, vous savez, que de drames peuvent parfois se cacher derrière des cultes de louanges et des réunions de louanges et des concerts de louanges. Asaph a, lui, eu l'honnêteté de dire qu'alors qu'il pénétrait dans les sanctuaires de Dieu pour conduire la louange, il broyait du noir. Et nous avons, par exemple, dans le psaume 77 au verset 8 à 11, cette interrogation du champion de la louange, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ? Ne sera-t-il plus favorable ? Sa bonté est-elle à jamais épuisée ? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité ? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde ? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Mais nous avons ce si beau texte du psaume 103, versets 13 et 14, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Et ici, je pense à la grande devise d'Hudson Taylor, auquel nous avons fait allusion. Elle se trouve dans Marc 11, 22. traduit généralement dans nos versions par cet impératif « ayez foi en Dieu », mais qui peut se traduire, à la lumière de la construction du texte grec, d'une autre manière, que j'aime parce qu'elle change notre regard de direction. Comptez sur la fidélité de Dieu. Comptez sur la fidélité de Dieu. Et Hudson Taylor, plus d'une fois, expliquait que même lorsque nous avons des moments de faiblesse, le Seigneur nous soutient dans sa grâce. Et il concluait en disant, comptez non seulement sur votre propre foi, mais aussi sur la fidélité de Dieu à votre égard. Toute ma vie, j'ai été inconstant. Je pouvais parfois avoir confiance, mais pas toujours. Lorsque j'étais incapable de croire, c'était pour moi un grand encouragement de me rendre compte que Dieu allait quand même être fidèle à mon égard. Et c'est ce revivaliste Moody qui a dit un jour dans toute la Bible, la vérité qui devrait nous être la plus chère, c'est celle de l'amour de Dieu. Satan essaie constamment de persuader les gens que le Seigneur ne les aime pas. Il a réussi à faire croire ce mensonge à nos premiers parents. Et il a réussi aussi, beaucoup trop souvent, à nous faire croire la même chose. Nous commettons une grave erreur quand nous disons à nos enfants que le Père Céleste ne les aime pas quand ils font le mal, mais seulement quand ils font le bien. Une telle chose n'est pas enseignée dans la Bible. Parce que votre enfant est agité ou a commis une désobéissance, vous ne le chassez pas comme s'il n'était pas votre enfant. De même, quand les hommes se sont égarés, Dieu ne les méprise pas pour autant. C'est le péché qu'il a en horreur. Et pour entrer plus profondément dans cette vérité, expérimenter de l'amour de Dieu qui ne tarit jamais, cette femme de Dieu que fut Corrie ten Boom, écrivit ceci. J'ai souvent entendu des gens dire « Comme Dieu est bon !» Nous avons prié qu'il ne pleuve pas pour le pique-nique de l'église et voyez la magnifique température que nous avons. Oui, Dieu est bon lorsqu'il envoie une belle journée ensoleillée. Mais il l'était également lorsqu'il permit que ma sœur Betsy meure de faim devant mes yeux dans un camp de concentration nazi. Je me souviens d'une fois où j'étais très découragé dans ce camp. Tout autour de nous était sombre. Mon cœur était plongé dans les ténèbres. Je me souviens avoir dit à Betsy que je pensais que Dieu nous avait oubliés. « Non, Corrie, » dit Betsy. « Il ne nous a pas oubliés. Souviens-toi de sa parole. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Et Corrie de conclure ainsi, « Auprès de Dieu, il y a un océan d'amour. Il y en a amplement pour tous. Que Dieu vous accorde de ne jamais douter de cet amour victorieux, quel que soit les circonstances. » Première constatation donc, Dieu n'abandonne pas Élie. Deuxième constatation dans notre texte, Dieu ne condamne pas son enfant. Élie avait suffisamment de problèmes avec lui-même. Pourquoi vouloir condamner quelqu'un qui se condamne ? Qui ploie sous le joug de la loi, écrasé par le fardeau de l'échec. Combien de fois nous est-il arrivé d'enfoncer un peu plus quelqu'un qui était déjà de s'enfoncer lui, en train de s'enfoncer lui-même. Oh, que Dieu ne condamne pas son enfant, ne l'empêche pas de ne pas être pour autant d'accord avec lui. Voilà pourquoi aussi Dieu interroge Élie. Dieu l'interroge et l'écoute. Il l'interroge bien qu'il sache déjà absolument tout de la situation. Cela signifie que Dieu interroge Élie pour Élie. Non pas pour s'informer, mais parce que Dieu sait que ce qui suivra cette interrogation s'inscrira dans le processus de guérison de son découragement. Et vous avez remarqué cette double invitation. Que fais-tu ici, Élie ? Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur le petit mot « ici ». Comme il y en a beaucoup à dire dans les Écritures, là où figure le petit mot « là ». Parce qu'il y a le « là » du lieu de la volonté de Dieu. Et il y a le « ici » du lieu qui n'est pas au cœur de la volonté de Dieu. Mais Dieu se tient ici, à l'endroit précisément où Élie n'est pas dans la volonté de Dieu. Et il lui dit, mais que fais-tu ici ? Raconte. C'est une main tendue. Élie, vide ton sac. Je t'écoute. Tu peux tout me dire. C'est l'écoute de l'amour. C'est une aide précieuse pour le décourager. Une aide qui manque si souvent aujourd'hui dans l'Église, où il suffirait parfois d'écouter un peu plus pour voir des solutions d'en haut aux problèmes de nos vies. Écoutez, mais écoutez vraiment. Et je fais remarquer, sans devoir m'y attarder, que le Seigneur Jésus avait l'art d'associer les mots. Et au mot « écouter », il associait le mot « comprendre ». Écoutez et comprenez. Et il est intéressant de constater que dans son étymologie, le mot « comprendre », dans la langue grecque du Nouveau Testament, c'est un petit mot composé de deux parties qui signifie littéralement être un avec, être un avec celui qui parle. Écoutez, mais en étant un avec celui qui vous raconte. Écoutez en vous identifiant à lui. Mettez-vous dans sa peau. Parce que ça va vous aider à rester à votre juste place. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à sa place ? Je pense à ce jeune guerrier nommé juge dans une tribu d'Amérindiens qui se rendit dans la forêt conscient de sa redoutable responsabilité, juger ses frères. Et qui fit cette prière. Ô grand créateur des hommes, empêche-moi de juger un de mes semblables avant d'avoir marché 2 mois dans ses mocassins. S'identifier. Nous mettre dans la peau de l'autre. Et c'est beau, n'est-ce pas, ce grand Dieu qui écoute, qui sait toutes choses. Mais qui écoute comme s'il voulait en quelque sorte se placer au niveau d'Élie. Rendez compte. Vous connaissez dans les 11 grandes religions mondiales une divinité qui est exprimée de cette manière ? Moi pas. Un grand Dieu qui s'abaisse et qui va même s'abaisser dans cette identification parfaite, absolue, de l'incarnation, dans la venue de son Fils, Jésus-Christ, au milieu des âmes. Et puis, après ne pas avoir abandonné, n'avoir pas condamné, avoir interrogé, écouté,
Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu se révèle à Élie et c'est la grande surprise. Il ne se révèle pas dans le vent fort et violent, destructeur. Il ne se révèle pas dans le tremblement de terre. Il ne se révèle pas dans le feu. Et ça, pour Élie, c'est quelque chose. Nous l'avons dit, les manifestations normales de la présence de Dieu, c'était le feu. Ce feu qui avait accompagné le don de la loi au Sinaï. Mais Dieu se révèle dans le son doux et subtil, un doux et subtil murmure, le son subtil d'un silence, un son à peine perceptible. Difficile à traduire. Le feu, c'est plus facile. Mais quelle nuance dans l'expression de la révélation de Dieu ici. Murmure doux et léger. L'amour paisible, sympathique, miséricordieux, compréhensif de Dieu, son doux sourire. Un baume pour le cœur découragé. C'est vrai que Dieu n'est pas toujours dans le feu et dans la tempête. L'Éternel s'était révélé à Job, un homme couturé de plaies, non cicatrisé, un homme abîmé dans sa douleur et dans sa dépression. Dieu s'est révélé à Élie, à Job dans la tempête. Chapitre 37, verset 1 à 5, 38, verset 1, 40, verset 1er. Dieu répondit à Job du milieu de la tempête. Job, dans sa situation, avait besoin d'un autre traitement. Mais pour Élie, à cause de tout ce que nous avons dit tout à l'heure dans notre introduction concernant la vocation d'Élie, concernant la personnalité d'Élie, concernant le message d'Élie, dans cette période d'éloignement, d'apostasie, de désobéissance, de corruption du peuple d'Israël, à cause de cela, Dieu ne peut se révéler dans le feu. Élie avait donc besoin d'un rééquilibrage dans sa vision de Dieu. Dieu est aussi, même au Sinaï, le Dieu de la bonté, de la grâce et de la miséricorde. Dieu va rectifier l'image déformée que le prophète a de lui. Parce que nous en avons la preuve dans le livre de l'Exode, Exode 33, versets 18 à 23 tout d'abord. Moïse dit à l'Éternel, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Chapitre 34, verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée. Nous sommes là au Sinaï, la montagne de la loi. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Moi, j'aime ce texte. Parce que Dieu, au Sinaï, a révélé à Moïse la gloire de sa grâce. Pas uniquement la gloire de sa sainteté. La gloire de sa grâce. Au Sinaï. Pour que nous sachions, tout au long de notre existence, que le Dieu de l'ancienne alliance n'est pas un Dieu différent du Dieu de la nouvelle alliance. Comme nous sommes tellement tentés de le penser, nous n'osons bien sûr pas le dire. Mais au fond de nos cœurs, nous sommes tellement tentés de penser que ce Dieu du Sinaï est quand même un Dieu terriblement différent du Dieu de la nouvelle alliance. Non! C'est à partir de cette révélation de la gloire, de la grâce de Dieu au Sinaï, qu'une dizaine de fois dans l'Ancien Testament, nous retrouvons ce même texte sur les lèvres et sous la plume d'autres rédacteurs inspirés. Et vous avez remarqué que la révélation de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu, n'a pas conduit Élie à une attitude de familiarité à l'endroit de Dieu. Mise en présence de la beauté de l'amour de Dieu en sa faveur, il nous est dit que quand Élie entendit cela, il s'enveloppa le visage de son manteau. La gloire de la grâce de Dieu dans nos vies nous pousse aussi à l'adoration. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Ésaïe 54, 8. Sa colère dure un instant, mais sa grâce, toute la vie. Psaume 30, verset 6. Je pense à cette tribu en Afrique orientale, la tribu Kiga, qui donne à Dieu le nom de Biheko. Biheko signifie, dans cette langue tribale, un Dieu qui porte tout sur ses épaules ou sur son dos. Dans cette tribu, seules les femmes ou les sœurs aînées portent les enfants sur le dos. Les pères ne le font jamais. Pour représenter Biheko, un de leurs artistes a sculpté dans le bois un homme qui porte sur le dos un enfant au visage d'adulte et dans ses bras un enfant plus faible. C'est le symbole d'un Dieu qui prend soin des humains avec la tendre sollicitude d'une mère. Si Dieu a révélé à Moïse, puis à Élie et à d'autres personnages de l'ancienne alliance la gloire de sa grâce au Sinaï, à combien plus forte raison devons-nous être sensibles dans nos vies à la gloire de sa grâce ? Puisque nous avons ce texte magistral d'Hébreux 12, 18 à 24. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté tout tremblant ». Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Et le terme est très beau ici. Le mot assemblée n'est pas le mot ecclésia dans le texte grec. C'est un mot unique dans le Nouveau Testament. Et c'est un mot qui correspond dans l'équivalent hébreu de l'Ancien Testament à ces grandes convocations solennelles du peuple de Dieu qui était réuni pour louer le Seigneur au son de la trompette, comme il était dit dans notre introduction tout à l'heure. Donc il est question de l'assemblée de ceux qui dans le ciel se réjouissent et célèbrent la fête. Vous êtes approchés du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voyez-vous, Dieu se rappelle à Élie comme le Dieu de la grâce, le Dieu Père, parce qu'Élie avait perdu de vue cette dimension, sa piété était déséquilibrée. Mes amis, c'est très important. Un commentateur anglais, Campbell Morgan, a écrit ceci: « Les conceptions qu'un homme a de Dieu déterminent son attitude par rapport à l'heure dans laquelle il vit. » Et puis nous terminons. Nous terminons en constatant que Dieu parle à Élie. Et son message, qui est destiné à conduire Élie dans un processus de guérison en profondeur, est lui aussi très riche. Dans un de ses livres, Samuel Pfeiffer écrira ceci: aujourd'hui encore, comme au temps du prophète Élie découragé, Dieu préfère rencontrer l'homme dans le doux murmure d'une lente guérison opérée dans le calme plutôt que dans le vacarme de grandes manifestations. Que lui dit-il? Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Va. Il s'adresse curieusement, bien qu'Élie soit profondément découragé, dépressif, il s'adresse pourtant à sa volonté. À une volonté qu'il veut animer, qu'il veut soutenir, mais il s'adresse à sa volonté. Et je suis frappé par la dimension volontaire du message des Écritures. Cette densité extraordinaire d'impératif qui s'adresse non pas à notre affectivité, qui ne bougerait pas, qui est dans l'incapacité de bouger face à un impératif. Dieu s'adresse à notre volonté. Même quand Jésus avait affaire à un paralytique qui était là depuis près de 40 ans au bord d'une piscine, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et il va intervenir. Va. C'est-à-dire, oui, il y a un moment où il faut faire acte de volonté. Même si c'est tout petit, n'est-ce pas? Même s'il n'y a plus qu'une étincelle, Dieu est là, qui n'éteint pas le lumignon qui fume encore, qui n'écrase pas la mèche sous ces lourds souliers de montagnes ferrées, n'est-ce pas? Non. Il y a en lui le vouloir et le faire. Il renouvelle la volonté. Va, quitte ton découragement. Tourne-lui résolument le dos. Et pour t'y aider, je te fixe de nouveaux objectifs. Voilà ton nouveau programme de travail. C'est Luther qui disait que quand il était déprimé, il a connu aussi des temps de profonde dépression. Quand je suis déprimé, je vais à l'écurie m'occuper des cochons. Je ne reste surtout pas sans rien faire. Et c'est vrai que même dans nos moments de découragement, Dieu peut nous fixer des objectifs. Parce que rien de tel de commencer parfois à se préoccuper du bien-être d'autrui pour commencer à sortir de soi-même. Voici donc ton nouveau programme de travail qui va te permettre de sortir de toi-même. Alors les instructions sont surprenantes. Vous avez remarqué, tu oindras Hazael pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu fils de Nimshi pour roi d'Israël. Bizarre. Parce que tout d'abord, aucun précédent roi d'Israël n'avait été oint par un prophète. Ça ne s'était jamais fait. Deuxièmement, il était quand même tout à fait exceptionnel et bizarre qu'un roi païen, Hazael, soit oint par un prophète d'Israël. C'était aussi exceptionnel. Les deux ordres sont absolument uniques. Ils n'entrent dans aucun cadre habituel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est Campbell Morgan qui a dit « Dieu fait régulièrement ce qui nous semble irrégulier. » Qui nous semble? Il se plaît à faire sauter nos petits schémas. Dieu est le Dieu de l'exceptionnel. Élie! Élie, sache que je suis le Dieu de l'exceptionnel. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Élie, j'ai pour toi des chemins surprenants. Tu n'es pas encore au bout de tes surprises avec moi. Élie, ne m'enferme pas dans une petite boîte. Ne m'enferme pas dans tes petits schémas. Élie, tu ne t'attendais pas à ça, hein? Toi, le champion de ma justice et de ma sainteté. Sous-entendu, Élie, la situation que tu vis, eh bien, elle n'est pas sous le contrôle de Jézabel, mais elle est sous mon contrôle. Et ce n'est pas Jézabel qui peut remettre mon plan en question. Il s'accomplira, tout est déjà prévu. Élie, je tiens la situation bien en main et j'ai des solutions surprenantes. Notre problème, c'est que nous sommes arrivés dans un tel état aujourd'hui, à cause de la situation qui prévaut dans ce monde, que nous avons de la peine à croire que Dieu a encore des solutions surprenantes face aux problèmes de ce monde et aux problèmes de l'Église. Et nous avons une telle piété que nous sommes tentés de nous appuyer continuellement sur les textes prophétiques pour baisser les bras en disant « de toute manière, ça doit arriver ». Et puis, attention, il est question de Jéhu et de Hazael. Vous avez déjà essayé de parcourir les quelques textes qui évoquent ces deux personnages? Ces deux personnages, ces deux rois qui n'ont pas eu une conduite exemplaire. Hazael, qui a obtenu son trône en assassinant son prédécesseur. Jéhu qui fit la même chose avant d'exterminer la famille royale au grand complet et qui fut d'ailleurs ensuite, plus tard, châtié à cause de cela. Quelle surprise, n'est-ce pas? Quelle que soit la conduite des rois, quelle que soit la manière dont ils prennent le pouvoir, et dont ils gouvernent ensuite, qu'ils s'appellent Kadhafi, ou alignez tous les noms qui vous gênent le plus dans la politique mondiale, en Irak et ailleurs, eh bien, quel qu'il soit, Dieu est souverain et les contrôle totalement. Élie, Élie, Jézabel, eh bien, elle est sous mon contrôle. Azaël est sous mon contrôle. Jéhu est sous mon contrôle. Et ces deux personnages ne gouverneront qu'avec mon autorisation. Pour moi, c'est une immense consolation. En pensant à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et parfois à cause de quelques fous qui sont au pouvoir. De savoir qu'ils sont au pouvoir, même quand ils se sont emparés sur la base du sang, des complots, de la sédition et de tout ce que vous voulez, ils sont au pouvoir sous l'autorité de Dieu. Qui, disons-le, redressera les injustices de l'histoire? Qui leur réglera leur compte? Si ce n'est pas sur cette terre, ce sera dans l'au-delà. Dieu est juste. Mais c'est Dieu qui fixe le temps. C'est Dieu qui renverse les rois et qui les établit. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Dernière constatation. Et elle n'est pas secondaire. C'est qu'il se trouve que Élie n'a pas été l'artisan direct de cette double onction. Dieu lui dit « tu oindras », il ne l'a pas fait. Nous avons les textes correspondants dans 2 Rois 8, 7 à 13, que vous pourrez lire, et 9, 1 à 6. Il n'y a pas eu d'ailleurs d'onction littérale pour Azaël, mais un appel dans un but précis. Donc le mot onction avait un sens de symbole, d'appel. Et puis, en ce qui concerne Jéhu, ce n'est pas Élie, ce n'est même pas... Oui, c'est Élisée et l'un des fils des prophètes sur son ordre qui a pratiqué cette onction. Et de plus, il a fallu une 20aine d'années pour que ce plan s'accomplisse. 20 ans encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela voudrait dire que Dieu est infidèle à ses ordres de marche pour Élie? Que Dieu est un Dieu menteur? Qu'il fait comme certains psys qui passent une mauvaise pommade pour aider quelqu'un à s'en sortir, qui racontent des blablabla, je dis certains, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. C'est trop facile dans la vie de généraliser. Mais non. Non. C'est qu'il y a un message là. Et si ce message n'était pas d'abord pour Élie, il est en tout cas pour nous. Mais je pense que ce que Dieu voulait dire à Élie, parce qu'Élie ensuite s'est rendu compte peu à peu que ça ne se faisait pas de son temps, ce que cela veut dire, c'est que Élie devait apprendre à regarder plus loin que le bout de son nez. Élie, je ne suis pas prisonnier du temps ni de l'espace. J'ai mon plan pour demain. Et j'ai même mon plan pour après-demain. Donc, Élie, change de regard sur tes échecs apparents. Tu es entré dans le syndrome de l'échec parce que tu n'as pas vu plus loin que le bout de ton nez. Tu as reçu ce message de Jézabel, tu t'es arrêté au présent et tu as craqué. Tu n'as pas voulu voir que tout cela entrait dans mon plan. Élie, tu n'es qu'un maillon dans une longue chaîne d'ouvriers. Ce que tes successeurs feront, ils le feront comme un prolongement de ton action. En quelque sorte, quand tu seras près de moi, Élie, tu seras présent dans leur activité. C'est une des conclusions d'Hébreux chapitre 11. Combien d'hommes et de femmes de foi n'ont pas vu l'accomplissement de certaines des promesses qui leur avaient été faites pour leur temps? Mais ils s'inscrivent dans une lignée. Et en quelque sorte, si le Seigneur me reprenait tout à l'heure auprès de lui, je serais présent dans l'activité de mes successeurs. Parce que je suis un maillon dans une longue chaîne de solidarité qui est entre les mains de Dieu. Ça m'évite de me prendre pour quelqu'un d'important. Et en même temps, ça m'évite de croire que tout est, pardon de le dire comme ça, foutu. Quand ça ne marche pas comme je voudrais, selon même le contenu de ma vocation, je m'inscris dans le temps de Dieu. Et je serai présent en quelque sorte, comprenons-nous bien. Je ne parle pas d'une quelconque réincarnation, que sais-je encore. Mais je serai présent au travers de l'activité de ceux qui me succéderont jusqu'à ce que ce soit fini. Que le Seigneur reprenne son Église et que nous entrions dans une nouvelle phase de l'histoire du cosmos. Et puis enfin, Dieu donne à Élie un successeur à former, tu ne seras pas seul. Tu vas avoir un compagnon, tu t'es plein de solitude. Eh bien, tu ne seras pas seul. Tu vas avoir un jeune compagnon différent de toi, et qui sait si Élisée a été différent d'Élie. Dieu est salut. Deux personnages infiniment complémentaires et différents dans leur vocation. Un homme de Dieu, Élisée, ayant de grandes qualités également. Et puis tu sais, Élie, si tu veux bien, cesse de penser que tu es tout seul à être fidèle. Tu n'es pas capable de lire dans les cœurs. Figure-toi que moi j'ai fait le compte. Et je n'ai pas besoin d'ordinateur ni de machine à calculer. Je sais de manière très claire, dans un clin d'œil, je sais qu'il y en a en tout cas 7000. 7000 hommes fidèles. Ça, c'est le mais positif de Dieu qui connaît les cœurs. Et c'est vrai que dans les temps les plus sombres de l'histoire d'Israël, Dieu s'est toujours trouvé un reste fidèle. Et dans l'Apocalypse, il y aura une foule immense que personne ne pouvait compter. Apocalypse 7, versets 9 à 12. Nous ne savons pas tout. Cela peut nous éviter de broyer du noir dans bien des situations. La réponse d'Élie à l'Éternel a été bienfaisante. Élie partit de là. Ce là qui était un ici, hors de la volonté de Dieu, mais que Dieu contrôlait, a fait place à un autre là, au diapason du plan de Dieu. Il a obéi, il a quitté son découragement, il a aussitôt entrepris sa nouvelle mission. Il avait beaucoup appris dans son épreuve, il avait désormais une vision plus équilibrée de Dieu. Et parce qu'il avait une vision plus équilibrée de Dieu, il avait une meilleure connaissance de lui-même. Fécondité de nos heures de découragement. Cette manière dont Dieu transforme nos découragements en fécondité, en leçons précieuses pour la suite de notre existence ici-bas. Que nous puissions apprendre à tirer des leçons de nos propres temps de découragement et que nous tirions ces leçons avec équilibre. C'est cet humoriste américain Mark Twain qui a dit ceci: ne tirons d'une expérience que sa juste leçon, sans aller au-delà. Sinon, nous serions comme le chat qui s'est assis une fois sur une cuisinière allumée il ne recommencera pas et il aura raison. Mais là où il a tort, c'est lorsqu'il n'ose plus remonter sur une cuisinière éteinte. Que Dieu nous accorde la grâce de tirer les vraies leçons et de ne pas nous laisser bloquer pendant des années, paralysés, parce que nous avons connu des moments très difficiles et que nous avons peur de tomber de nouveau. Sept fois, le juste tombe et il se relève, parce que le Seigneur de grâce le prend par la main à cause de ses mains percées. Nous voulons prier. Oh, merci Seigneur, merci. Merci parce que cette histoire d'Élie n'est pas comme la conclusion de tant de livres écrits par les auteurs modernes qui nous laissent dans leur conclusion un goût de profonde amertume. Ça se termine si mal aujourd'hui. Nous te bénissons de tout notre cœur pour le relèvement d'Élie, pour le renouvellement de ta confiance, pour la nouvelle mission que tu lui as confiée, pour tout ce qu'il a pu apprendre à ton sujet et sur lui-même, et qui nous est tellement précieux à nous aujourd'hui qui sommes de la même nature que lui. Seigneur, aide-nous à nous aussi à nous lever pour sortir avec ta grâce et ta main puissante de nos découragements. Nous t'en bénissons, nous t'aimons, nous t'adorons. Tout cela à cause du Seigneur Jésus. Amen.